Seconde.
Alors, souvenez-vous, nous avions commencé avec Jean, Jean-Marie, Cécile et Sylviane une émission sur la démocratie et la crise de la démocratie. Et nous recevions Philippe Buton pour en parler. Donc reprenons le fil de notre histoire.
On est prêt ? Oui, mon lieutenant. Alors, à l'attaque !
La question que je me pose, moi, c'est pourquoi cette démocratie représentative, elle est aujourd'hui extraordinairement critiquée. Eh bien, je crois, il y a sûrement plusieurs hypothèses, mais celle qui me semble assez évidente, c'est l'invention, si j'ose dire, des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une pratique politique qui s'est profondément transformée et une pratique informationnelle qui s'est profondément transformée avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Et autant les réseaux sociaux peuvent évidemment procurer d'énormes avantages, enfin, on est tous, évidemment qu'on ne vit pas sur la planète Mars, donc on les utilise tous, mais ils ont au moins deux grands inconvénients, très grands inconvénients. C'est que, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui votait pour Macron parce que c'était un beau gosse ou De Gaulle parce qu'il connaissait son texte. Le gros problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils donnent l'illusion de l'information. Si vous n'avez pas, je veux dire, même mes étudiants à Sciences Po, je passe un temps de malade à leur expliquer que c'est pas parce que ça apparaît en premier sur le net que c'est la voie de la vérité. Donc, si vous n'avez pas la technique pour arriver à trier, eh bien, vous allez avoir des informations qui, moins qu'on puisse dire, ne correspondront pas nécessairement au point de vue de la vérité telle qu'elle est établie par les scientifiques à un moment donné. Et puis, vous avez un deuxième problème, c'est l'illusion du débat. Vous croyez que vous débattez, en réalité, vous êtes dans une niche communautaire et vous débattez avec vos propres copains. Et puis tout ça, ça monte et c'est les positions les plus radicalisées qui sont les plus écoutées. Bref, on a une apparence de démocratie directe avec les réseaux sociaux. Et ça me semble extrêmement dangereux. En tout cas, c'est ça qui provoque la crise de la démocratie représentative.
Je rebondis là-dessus, mais les exemples que vous donnez, je les attribuerais à notre système télévisuel actuel. C'est qu'on assiste à l'heure actuelle des débats entre notre gouvernement, enfin la droite et l'extrême droite. Hein, c'est, pour moi, tout ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on vit actuellement avec les médias actuels, en fait. Pas par rapport aux réseaux sociaux ?
Oui, avec un seul problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne regarde la télé. Si vous prenez les jeunes générations, la jeune génération, là, on a tous les statistiques que l'on veut, les jeunes, mes enfants n'ont jamais regardé la télé.
Oui, mais ils votent pas. On s'est aperçu que la majorité, les abstentionnistes, c'était les jeunes. Et donc, ceux qui n'ont pas voté, c'est ceux qui ne regardent pas la télé. Donc, ceux qui ont voté, c'est ceux qui regardent la télé. Donc, ceux qui ont voté, c'est ceux qui assistent à ce que vous venez de dire, c'est qu'on a un débat qui est cloisonné entre le moins pire et le pire, en fait.
Oui, c'est possible, mais il n'y a pas que... Encore une fois, les réseaux sociaux participent à ça et participent, à mon avis, de façon beaucoup plus dangereuse que la télé, qui a un poids aujourd'hui beaucoup plus faible que quand j'étais jeune.
Hein. Alors, juste pour dire, c'est que la personne avait allumé la télé, en fait, a subi les informations qu'elle reçoit. Le réseau social, la personne, elle y va d'elle-même, en fait. Elle a le choix d'aller chercher l'information contrairement à la télévision.
Elle a l'illusion de la liberté.
Je sais pas si je parlerai de liberté. C'est juste qu'à un moment donné, on choisit d'avoir une information ou pas.
Si vous voulez, mais je pense qu'il est extrêmement contraint, ce choix. Extrêmement contraint. Enfin bon.
Ceci étant, il peut y avoir dans la démocratie représentative des moments ou des formes politiques qui relèvent de la démocratie directe.
Absolument.
Je pense au référendum, par exemple. Quoi. Je pense au référendum avec un pays qu'il pratique beaucoup, mais que je connais peu. Pour autant, il n'y a pas de révolution économique et sociale qui se produit dans ce pays-là. C'est la Suisse, quoi.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Donc, un exercice beaucoup plus fréquent du référendum, mais qui, j'imagine, doit être lui aussi borné.
Je connais relativement, enfin, relativement bien mon, l'exemple de la Suisse, puisque mon fils était étudiant, étudiant là-bas, et c'est avec un groupe de Suisses qu'il est allé à Sainte-Soline le week-end dernier. Mais, le problème de... C'est quand même... Il faut effectivement réfléchir à instituer le plus de démocratie directe dans la démocratie représentative, mais en étant avec une prudence dessus. Par exemple, je pense que ce qui fonctionne très bien sans danger, par exemple, je dis un danger, c'est évident, un référendum pour ou contre la peine de mort.
Ah non, je ne pense pas qu'il soit possible en Suisse.
Hein. Si.
Vraiment.
Je suis quasiment sûr. D'ailleurs, je crois qu'il a eu. Enfin, je crois vraiment qu'il est possible. Enfin, faut vérifier. Je vais vérifier dès ce soir. En tout cas, en France, ça serait dramatique pour les raisons que j'ai déjà évoquées. En revanche, les conventions citoyennes qui ont eu lieu avec des citoyens tirés au sort ou pas, qui ont tous les moyens nécessaires de la démocratie, de l'éducation, d'un vrai débat en invitant tous les experts qu'ils veulent, tout ça, là, ça me semble parfaitement borné et utile. Mais en France, par exemple, pour en revenir... Attendez, je termine mon raisonnement, parce que je vais le paumer autrement. Pour les histoires de la Suisse, pourquoi c'est pas possible en France? Parce qu'en France... On ne répond jamais à la question posée. On répond à celui qui pose la question. Je veux dire, quand il y a eu la réforme de la Constitution européenne, je vivais en Italie et j'étais favorable à cette Constitution européenne et j'ai téléphoné à mon père pour faire une pression amicale pour lui demander, pour lui dire que ça serait une bonne idée d'aller voter. Et il m'a répondu sur un truc absurde, ici, j'irai pas voter pour ce connard. Et le connard, je ne sais plus lequel c'était, il y en avait beaucoup dans sa bouche, et je crois que c'était Chirac à ce moment-là. Et parce qu'il avait fait je ne sais pas quoi. Bon, ça n'avait évidemment rien à voir avec l'Europe. En France, c'est la même chose. Si Macron fait aujourd'hui un référendum sur n'importe quoi, évidemment qu'il va être rejeté, ce référendum. Alors qu'en Suisse, parce qu'ils sont bien élevés... Non, je plaisante. En Suisse, ils répondent à la question qu'on pose. En France, non. Je le regrette, hein. Mais c'est la réalité.
C'est un problème d'éducation.
J'entends déjà dire que pour les européennes, les gens vont voter contre Macron et pour Le Pen.
Mais avec la...
C'est un danger
ça n'a rien
principal.
À voir, pourtant.
Avec les conventions citoyennes que vous évoquez à l'instant... On n'est pas dans le registre de la démocratie directe. Hein. On appelle ça de la démocratie participative. Ensuite, le pouvoir, ce qui sort de ces conventions citoyennes, il en fait ce qu'il en veut. Quoi.
Absolument. Ben oui, parce que le pouvoir a une légitimité. Le tirage au sort en France, alors la Grèce antique privilégiait le tirage au sort parce qu'elle croyait que c'était Dieu qui guidait, enfin les dieux qui guidaient le sort. Exactement ce que pensent les monarchistes avant 1789, c'est que d'une façon ou d'une autre, Dieu a choisi le roi et que le roi a une légitimité supérieure. Heureusement, on n'en est plus là depuis le 28 août 1789. Donc,
Ceci étant, ce qui sort de ces conventions citoyennes, enfin en France, il n'y a que deux exemples. Quoi, hein. Il y a celle qui s'achève là, sur,
la fin de vie.
Et puis il y a une convention citoyenne sur le climat. L'exécutif aurait pu reprendre sans filtre les propositions et les présenter à l'Assemblée. C'est ce qu'il n'a pas fait. Hein.
Bien sûr. Oui, non, mais je ne dis pas que tout fonctionne bien. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis que la démocratie directe, il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir et si elle institue un référendum demandant les pleins pouvoirs pour une période limitée au Parlement dirigé par son parti, je pense qu'un certain nombre de gens qui réclamaient la démocratie directe vont drôlement le regretter. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer avec ça. C'est extrêmement dangereux.
Oui, mais la démocratie, quoi, on est représenté par des gens qui ne nous représentent pas réellement. Et on voit bien, déjà, au Parlement, ils refusent, eux, d'avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter. Moi, si je fais de l'intérim, il faut un casier judiciaire vierge. Ils ont... Il y en a une, à une époque, qui allait à l'Assemblée avec un bracelet électronique. Est-ce que ça, c'est un pays qui fonctionne bien, qui accepte ça? On a un gouvernement, c'est Alibaba et les 40 voleurs. Non, mais c'est quoi? Je veux dire...
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'il est beaucoup plus corrompu que les gouvernements précédents, c'est ça?
Ah bah précédent, je ne sais pas. Mais là, quand on a un garde des Sceaux qui est dans des affaires judiciaires, c'est le pays, il fonctionne pas normalement quand même. Ce serait dans n'importe quel pays d'Afrique, dans les journaux, ils en feraient leur gorge chaude, on se foutrait tous de leur gueule. Et là, c'est chez nous, donc ça passe comme ça, quoi. Franchement, c'est... Après, on demande aux citoyens d'être irréprochables et de marcher bien dans les clous et de traverser où il faut. Et je pense que déjà, ça devrait s'appliquer à eux, quoi.
Et surtout pas manifester.
Surtout pas manifester, aussi manifester, mais sur le trajet qu'on leur indique, quoi. Je veux dire, il y a un moment... les citoyens, ils voient le truc quand même, quoi. C'est...
Et au-delà de ça, est-ce que le... J'entends bien tous vos arguments, hein, mais est-ce que le carriérisme n'est pas un problème dans la démocratie ? Est-ce que le fait d'occuper un poste, peu importe lequel il soit, que ce soit maire, président, est-ce que faire de la politique plus de 3 ans, plus de 10 ans, est-ce que ça ne dessert pas la démocratie, justement ? Parce que est-ce qu'on n'est pas tenté d'influer la démocratie à son avantage et donc aux personnes qui nous entourent et qui vont rester 10 ans, 15 ans à gouverner ?
Oui, oui, je crois que vous avez raison. Mais la tendance, c'est plutôt la réduction, justement. Quand vous prenez...
Le Conseil des sages, hein. Et ça fait combien de temps qu'ils font de la politique, hein ?
Conseil des sages.
Constitutionnel.
Merci. Constitutionnel. Ouais, pardon, excusez-moi. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils font de la politique ? Je prends Madame Vautrin, ça fait combien de temps qu'elle fait de la politique ? Est-ce que à un moment donné, il ne faut pas se dire non, on fait de la politique pendant 3 ans, 5 ans, et après on laisse la place ?
Ben alors, je vais reprendre l'exemple pour continuer, pour rebondir dessus. Si on prend l'exemple de la commune, donc les mandats étaient impératifs, les élus étaient révocables, ça peut être une solution aussi pour contrer donc, les méfaits de la... démocratie représentative.
Très honnêtement, la révocabilité des élus, j'y crois pas une seconde. Pour une raison très simple, c'est que si vous faites la révocabilité des élus est à la démocratie, ce que l'Assemblée Générale étudiante est à la démocratie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop bête, vous êtes capable assez facilement, avec un petit groupe bien organisé, de pouvoir organiser une assemblée qui va démettre celui qui a été élu. De même que si vous faites une assemblée générale étudiant, si vous êtes relativement bien organisé, vous savez comment faire pour arriver à imposer vos décisions. Donc, je crois là aussi que c'est la porte ouverte à des choses très, 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 très dangereuses.
Et en ce cas, le tirage au sort pour éviter la loi des reins de l'oligarchie.
Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je crois qu'il faut vraiment croire en Dieu dans ces cas-là.
Non, moi, je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, si tu te dis, on crée un gouvernement par tirage au sort sur une période de 3 ou sur 5 ans, et tu sais très bien que ces personnes-là vont avoir un certain temps juste pour faire des lois, que ça va être d'autres personnes qui vont y réfléchir, et que ces personnes-là, tu leur donnes tous les moyens d'être informés, un peu comme une convention citoyenne. Et je pense oui, parce qu'ils vont pas, ils n'auront pas le temps de mettre en place des mécanismes pour se protéger, eux et les personnes qui les entourent. Je pense oui.
Et le tirage au sort, c'était la Grèce antique, c'est ça ? Pour certains magistrats.
C'est la Grèce antique.
Puis il y en avait d'autres étaient élus, mais révocables. D'autres étaient élus.
Non, ils étaient élus tous les ans.
Étaient élus ceux qui nécessitaient une certaine expertise pour.
Mais je veux dire, il faut. Bien sûr qu'on peut envisager ça, mais il faut voir aussi les effets pervers éventuels. J'en vois un comme ça. Je veux dire, j'ai rien contre cette tentative-là. Mais j'en vois un, évidemment. Si vous êtes élu pour une période de 3 ans, 4 ans, 5 ans, nécessairement, votre connaissance des rouages est quand même très, très, très faible. Imaginez des rouages administratifs, c'est un peu logique. Imaginez que vous deviez prendre une position sur le budget militaire de la France.
Ouais.
Dans ce cas-là, je crois, il me semble, que la tentation va être très, 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 très forte. À condition que vous ne soyez pas antimilitariste, etc., parce que c'est un autre débat. Mais si vous n'êtes pas antimilitariste, la tentation va être très, 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 très forte de vous en remettre aux décisions de l'état-major des armées. Parce que vous vous sentirez incapable.
Pourquoi ? La convention citoyenne, je pense que parmi les 150 citoyens, il y en a, allez, un tiers, je vais être gentil, hein, qui ne savaient pas de quoi on leur parlait. Si, à un moment donné, on leur donne tous les discours contradictoires, ils peuvent se faire une idée, en fait. Et je pense que la personne, peut-être, si je lui explique les conflits qu'il y a dans le monde, va pouvoir se dire « Ah oui, c'est justifié, non, c'est pas justifié. » Elle va pouvoir se faire une idée, un avis. S'il y a 150 personnes qui gouvernent de cette manière-là, peut-être, je sais pas. Pour moi, on n'a pas essayé, que ça pourrait être intéressant d'y réfléchir. Et je dirais pas « Non, ça peut pas marcher parce que la personne ne sera pas. »
Ça peut tenter, mais tentons sur un point, peut-être pas avec ça.
Ça reprend la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'éducation. Hein. Moi, je pense que l'éducation à la démocratie, c'est celle-là.
Oui, oui.
Hein.
Ouais.
Donc, l'éducation à la démocratie, c'est exercer la démocratie, quoi. Il n'y en a pas d'autre, parce que si c'est l'école, etc., en fait, on va retomber toujours dans ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir qui décide de qui peut voter, de ses capacités, etc. On peut lui faire passer aussi un examen. Enfin bon, on peut aller loin comme ça. Donc je pense qu'effectivement, c'était la meilleure éducation.
Dans les ministères, c'est les cabinets ministériels qui prennent les décisions. Hein.
Donc il y avait on a parlé de l'opposition démocratie représentative, démocratie directe. Et donc il y a une autre opposition sur démocratie politique, démocratie sociale. La démocratie sociale étant celle qui prend effectivement en compte les conflits d'intérêts, qui prend en compte les inégalités, etc. Et donc qui donne certains droits sociaux et certains, donc les droits sociaux on les connaît, hein, c'est le droit de grève, c'est les syndicats, c'est les corps intermédiaires pour aller très vite, donc du coup c'est l'ensemble de la sécurité sociale et de ces droits sociaux. Et là on voit bien quand même aujourd'hui que sans démocratie sociale, c'est-à-dire sans prise en compte de la société, du social, et si on reste cantonné à la démocratie politique telle que ça a été fait jusqu'à présent, ça dévitalise énormément la démocratie politique.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence, mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue, la mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Et là, on voit bien quand même aujourd'hui que sans démocratie sociale, c'est-à-dire sans prise en compte de la société, du social, et si on reste cantonné à la démocratie politique telle que ça a été fait jusqu'à présent, bah ça quand même, ça dévitalise énormément la démocratie politique.
Absolument, absolument. Et ça, c'est depuis les origines de la gauche. La gauche, précisément, elle s'est construite sur le thème que l'égalité politique ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée des moyens d'exercer cette égalité politique. Bon. Le problème, c'est jusqu'où vous allez. Jusqu'où vous allez. Et sur ce plan-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que sur près de deux siècles, ça a toujours progressé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des droits sociaux supplémentaires de façon importante, j'entends, dans le détail, bien sûr, il y a remise en cause de telle ou telle chose, et parfois, etc. Enfin, sur le long terme, les droits sociaux ont été largement progressé, et la preuve, c'est que c'est toujours quelque chose qui est fascinant, que personne ne croit, sauf lorsqu'il a regardé les statistiques. La France est, et de loin, le pays le plus redistributeur en Europe. Mais alors, de très loin, y compris avant la Finlande, les pays scandinaves, etc. C'est le pays où les droits sociaux sont les plus généreux. Dans le même temps, les Français sont persuadés qu'ils vivent dans le pays où les droits sociaux sont les moins généreux. C'est une autre contradiction. Enfin bref, toujours est-il que bien entendu, il faut qu'il y ait les conditions faites pour que le pouvoir politique puisse s'exercer, sinon...
Mais est-ce qu'il n'y a pas une rupture à partir des années 80, quand le néolibéralisme prend toute son envergure pour justement casser l'État social... Enfin oui, on va le dire comme ça quand même, casser l'État social, casser le droit social, etc.
Vous avez des exemples ? Le cassage du droit social et cassage...
Bah, sur la réforme du chômage, sur la réforme de la retraite, les exemples.
La loi travail.
La loi travail, je pense qu'il y en a loin, qu'il y en a beaucoup quand même. Des
et
des
puis exemples. Peut-être que par rapport aux Suédois, aux Finlandais, les Français sont plus épris, pour reprendre Tocqueville, d'égalité.
Absolument, mais, vous avez totalement raison. Il suffit de discuter avec à peu près n'importe quel pays en Europe, quelques personnes ressortissants d'un pays européen, pour s'apercevoir qu'effectivement, l'exigence de l'égalité est incroyablement plus prégnante en France que partout ailleurs. Ça, c'est du... J'ai encore discuté la semaine dernière avec une amie suédoise sur comment vous allez chez le médecin en Suède. Ben, je vous invite à faire trouver un Suédois puis poser la question. Vous allez être fasciné par rapport à l'image qu'on peut avoir de la social-démocratie suédoise. Donc voilà.
Dites-nous à propos du médecin.
Eh ben, vous n'y allez pas. Vous ne pouvez pas. Vous devez téléphoner à une sorte centrale.
Doctolib.
Voilà, oui. L'équivalent. Et vous êtes mis en contact avec des infirmiers et plusieurs fois. Et c'est qu'au bout d'un moment que vous pouvez accéder et qui décide si vous y allez. C'est incroyablement compliqué.
Incroyablement. Ça, je pense que c'est un peu ce qui nous attend dans les années à venir. Quoi, je crains.
C'est possible. Je ne connais pas l'avenir.
Voilà. Donc, vous seriez d'accord pour dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de justice sociale, c'est-à-dire de prise en compte des conflits, des inégalités et de domination, d'exploitation, il ne peut pas y avoir de démocratie politique.
Bien sûr, vraiment. Mais j'irai plus loin. Le pari de la République, donc de la gauche historiquement, c'est la méritocratie républicaine. Et c'est-à-dire que, quelles que soient les origines, on essaye, c'est pas possible, mais on essaye que tous les enfants puissent s'élever dans la hiérarchie sociale. On sait que c'est pas possible une totale transparence. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un discours avec mes enfants qui sera dans le domaine de l'histoire politique sûrement plus précis que d'autres qui n'ont pas la même formation. Bon, mais enfin, on essaye. La question est, ça va dans quel sens? Dans quel sens ça va? Est-ce que la méritocratie républicaine progresse ou est-ce qu'elle régresse? Eh bien, contrairement à ce qu'a dit Bourdieu et Passeron dans Les Héritiers en 65, ils ont relevé qu'il y avait une différence de hiérarchie sociale. Évidemment qu'un fils de prof, il a plus de chances de réussir ses études et on peut le regretter, mais enfin, c'est comme ça qu'un fils d'un immigré qui vient juste d'arriver. Bon, la question est, est-ce que, historiquement, ça va s'améliorer ou ça va se dégrader? Alors, les études, comme par hasard, ne sont pas tellement développées, mais... En gros, ce qui semble quand même assez net, c'est que la méritocratie républicaine a progressé pendant de très nombreuses décennies et que maintenant c'est fini. Et que maintenant ça a plutôt tendance à régresser et qu'on est en train de reconstruire une aristocratie du savoir. Il suffit de voir les gens qui sont à Normal Sup aujourd'hui et voir la profession des parents. Tous les fils d'ouvriers qui entraient à l'université, c'est pas fini, mais sauf que maintenant, vu que tout le monde y va à l'université, les choses sont un peu plus difficiles à analyser. Bref.
Il suffit aussi de voir la composition sociale de l'Assemblée nationale, quoi, par rapport à ce qu'on pouvait constater dans l'immédiat après-guerre. Quoi.
Alors ça, c'est plus compliqué. J'aurais tendance à vous dire oui, sauf que je suis un spécialiste du Parti communiste. J'ai travaillé là-dessus pendant 35 ans. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de très... très compliqué parce que c'est avant tout le Parti communiste qui formait, qui éduquait et qui formait et qui sélectionnait ses cadres. Allez. Et moi, j'ai tous les textes que vous voulez où on voit comment, à l'intérieur du Parti communiste, on faisait la chasse aux profs. On empêchait les profs d'obtenir des responsabilités parce qu'on voulait à tout prix que ce soit des ouvriers qui occupent les rangs les premiers rangs. Or, à concurrence égale, le capital culturel d'un prof est tellement plus... Il sait écrire, il sait faire des textes, il sait parler, etc., que l'ouvrier avait moins de chance. Et donc le parti s'est battu pendant des décennies pour lutter contre la sélection sociale naturelle avec succès. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la prolétarisation de l'Assemblée nationale entre 45 et 77 est un peu artificielle. C'est lié au Parti communiste.
Là, dans votre propos, vous naturalisez la sélection sociale.
La sélection sociale n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle, mais c'est une donnée qui s'impose par-delà la volonté des gens. Indiscutablement, je pense qu'il y a des profs ici, il y en a toujours. Vous pouvez toujours, sauf à vous obliger à multiplier les fautes d'orthographe et à parler mal français avec vos enfants, la socialisation de vos enfants sera évidemment plus intégratrice dans la société que la socialisation de primo-arrivants du Maghreb. Enfin, je veux dire,
oui, mais bien sûr, mais du coup... Voilà.
Mais ça ne justifie pas, ça ne veut pas dire que ça ne la légitime pas. Il faut lutter contre, mais il faut lutter contre en élevant les premiers, en élevant les seconds, pas en abaissant les premiers.
Ces gens-là votent des lois pour des gens dont ils ne connaissent absolument pas la vie.
C'est une des grandes contradictions de la démocratie représentative. C'est pour ça que la gauche a essayé, dans une certaine mesure, de lutter contre ça. Le Parti socialiste a eu quelques résultats non négligeables. Bérégovoy était d'origine populaire. Voilà, mais ça a toujours été effectivement assez limité.
Moi, pour continuer là-dessus, donc, est-ce que vous ne pensez pas que, je ne vais pas dire l'effondrement des partis de gauche, mais bon, un peu leur délitement, le fait qu'il y ait plusieurs partis de gauche maintenant avec les écolos, etc., qui n'arrivent pas à produire un minimum de consensus ou alors de façon très ponctuelle pour certaines élections, n'ont pas une responsabilité importante donc dans cette désaffection et dans cette crise de la démocratie politique. Enfin, moi, c'est ce qui me semble. Je veux dire, on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, chacun va reprendre ses billes pour les européennes, etc. Enfin bon, moi, ça me semble complètement ahurissant, déstabilisant et un peu désespérant, alors qu'on pourrait quand même supposer que les partis de gauche peuvent se mettre d'accord sur un minimum, voire sur un programme commun, pour reprendre une expression connue, et qu'ils ont un boulevard, quoi.
Ça, c'est les citoyens qui parlent. Moi, la seule chose que je peux dire, ce qui est totalement fascinant, c'est que tous les partis de gauche, sans exception, ont accepté l'idée que ça serait l'extrême droite qui serait la concurrente de Macron. Point barre. Parce que s'ils n'avaient pas accepté, il suffisait d'organiser n'importe quoi à l'avance. Mais pour tout un tas de raisons, tous ont accepté ça. Le problème, c'est que ça me semble un peu délicat, d'une part, de dire que le balancier de la vie politique française va vers la droite, ce qui est là, c'est une réalité. On peut le démontrer par tout ce que vous voulez, tous les sondages, tous les résultats, tout ce qu'on veut. Et en même temps, ne pas faire grand-chose pour empêcher que le débat soit focalisé entre le centre et l'extrême droite. C'est un vrai problème. Maintenant, je ne suis pas membre d'un parti de gauche, donc je ne peux pas répondre à leur place.
Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine à ton crayon. Dis petit prince, t'y redessine-moi l'horizon. Des libertés qui font la vie de nos bistrots, des sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, c'est pas l'ignorance jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume, menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier, dessineront toujours ton visage, liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays.
Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine, c'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine, c'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Si vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Si ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres pris sous les terreurs des fusillades, à Cabu, à Tignus, à Charpe, à Polinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misères qui savent même plus lire. Il est temps, mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières, que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, Cabu boive un canon avec Manon. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore, la liberté aux mémoires de nos amis morts. Autant que décideront tous les gamins du monde, ton nom sur les arbres et puis parfois des jocondes, aux pinceaux qui font les Vinci, les Polinci, tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un trait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Et si c'est un crayon, oui, contre la mitraille, alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leurs livres. Il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes. Le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi mon ami, que c'est pas l'ignorance jamais qui sera le drapeau de notre France.
Peut-être quelques mots sur votre livre, si vous voulez nous le présenter.
On pourrait, Jean, si tu as une dernière question.
Si on a fini, je ne sais pas.
Alors. On a encore du temps. Si tu veux poser une dernière question, oui, il nous reste 3 minutes, mais si c'est 5, c'est pas grave. Mais faut... je te laisse poser une dernière question et après, si vous pouvez nous présenter votre livre, faites-vous plaisir. Mais non, mais c'est autant.
Si vous voulez, bien sûr. Moi, j'ai quand même des chiffres, hein, mais je vais pas tous les lire parce qu'il faut, faire vite. Hein. C'est quand même. Donc, j'avais noté ça. Hein, donc une désaffection de l'ensemble des Français par rapport à la démocratie Et donc 68% des Français estiment que ce régime-là est irremplaçable, mais un tiers des sondés, donc 32%, sont d'un avis contraire, trouvant que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie, donc je ne sais pas lesquels ils ont en tête. Et une forte progression, donc j'ai noté ça, c'est un sondage qui était paru dans Le Monde il y a une paire d'années, particulièrement sensible chez les cadres, plus 14 points, et les employés, plus 13 points. Vous avez quand même une idée d'explication de ce phénomène-là. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu inquiétant. Et moi, je trouve que c'est en lien direct avec la crise de la démocratie représentative. Hein.
J'ai très longtemps travaillé sur les sondages. Et donc, la seule chose que je sais sur les sondages, c'est qu'ils sont extrêmement utiles à condition de les englober tous, ou du moins une grande quantité. Et donc, un sondage isolé, moi, je le prends, je ne le regarde pas. C'est-à-dire que je crois qu'il faudrait... J'ai repris, là, en plus, j'ai essayé de voir ce matin, donc c'était OpinionWay pour le début, ouais, mais y a pas, vous n'avez pas donné la source pour le deuxième, ouais. Et donc je n'ai pas pu faire une étude...
C'est un sondage, c'est longitudinal, hein, le deuxième aussi. Hein,
oui, mais sur deux années, alors que Opinion... Enfin bref, bon, on ne va pas entrer sur les détails. Mais ça serait extrêmement utile de faire une étude, mais il faut les mettre sur une très longue période. Par exemple, la question « Est-ce que la démocratie fonctionne bien en France ?» Ça fonctionne toujours mal en France. Ça fonctionne toujours mal. Donc l'idée que ça soit... Je crois qu'il n'y a jamais eu un moment où ça bien fonctionne, où les gens ont dit que ça a bien fonctionné. Donc il faut regarder sur une très longue période. Ce n'est pas le résultat absolu qui compte, c'est l'évolution. Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça baisse? Et vous l'avez dit, mais sur simplement deux années. Et puis, vous n'avez pris que les cadres et les employés. J'aurais bien voulu voir comment c'était pour les ouvriers.
Enfin, dans l'article du Monde, il n'y avait que ces deux...
D'accord. Par exemple, dans le sondage d'OpinionWay que vous avez cité, là, j'y suis retourné ce matin, je les ai repris, les cinq, j'ai regardé. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que le fond... Est-ce que ça fonctionne bien ou pas en France? Là, c'est totalement en relation avec le niveau de salaire. Totalement. C'est-à-dire que ceux qui ont un bon niveau de salaire disent que la démocratie fonctionne bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le fonctionnement de la démocratie qui pose problème. Ça veut dire que c'est les résultats de la vie économique et sociale qui posent problème. Donc, il faut... C'est important, c'est une source, mais isolé comme ça, on peut pas dire grand chose.
Ça peut dire aussi qu'effectivement les effets de la démocratie politique ne sont pas ceux qu'attendent ceux qui sont dominés ou exploités dans la dimension sociale.
Mais encore une fois, faut voir que ça a toujours été le cas depuis toujours. Il y a toujours une insatisfaction permanente. Les choses qui ont évolué, c'est le fait que maintenant on isole dans les facteurs. Par exemple, il y a un nombre, alors j'ai oublié le chiffre, mais il était énorme, des Français d'origine musulmane qui disent que la charia est supérieure à la démocratie. Waouh ! Là, et le chiffre est considérable. Bon, alors voilà, il faut interroger sur des phénomènes nouveaux. Bon, c'est une. Mais évidemment, ce n'est pas le facteur principal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un sondage isolé. Faut faire très attention. En revanche, faire une étude sur une très longue période, ça serait passionnant et ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais comme ça, je peux pas réagir à chaud sur un sondage isolé.
Donc la discussion a été démocratique.
Oh, on est d'accord.
Et la minorité que je représente a été largement respectée. Et je vous remercie. C'est une des conditions de la démocratie. N'oubliez pas, la minorité d'aujourd'hui est ou peut être la majorité de demain. Et donc, elle mérite le respect.
Les minorités, elles sont souvent éjectées. Hein.
Pas par moi.
Mises de côté. Non, mais dans les peuples, je pense.
On va devoir s'arrêter de toute façon. Philippe, merci. Avant de nous laisser, est-ce que vous voulez nous présenter votre livre?
Ah, bah, c'est gentil. Je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas faire une conférence. Ce que je veux dire, c'est quelle est l'originalité de mon livre? C'est ce qui s'appelle l'histoire du gauchisme. Et pourquoi il s'appelle l'histoire du gauchisme et pas histoire de l'extrême gauche? C'est parce que j'étudie tous les groupes trotskistes, maoïstes, anarchistes, etc., qui naissent autour de mai 68 et qui vont connaître leur apogée dans les années 70. Mais ça me semble... Ça me semble le sommet de l'iceberg. C'est pas ça qui est très important. tous ces groupes gauchistes, ce que j'appelle le gauchisme politique, ils puisaient leur force dans tout à fait autre chose que j'appelle le gauchisme culturel, c'est-à-dire une aspiration de ma génération, pour aller vite, à plus de liberté, à plus d'égalité, et aussi à plus de fraternité, parce que quand on est dans une manif, ben on se sent proche de celui qu'on ne connaît même pas et qui pourtant est juste à côté de vous, etc. Donc il y avait dans cette génération-là toute cette volonté de respirer, d'être plus libre, et à un moment donné, alors pourquoi ? Parce que la France a une culture politique complètement fascinée à l'époque par le marxisme, qui a un poids du Parti communiste, enfin il y a tout un tas de raisons, ce qui fait que cette aspiration libertaire en réalité a été canalisée par ces groupes gauchistes qui, paradoxe, avaient un marxisme encore plus ossifié que le marxisme du PCF. Ils étaient encore plus staliniens pour les Mao, ils étaient encore plus bureaucratiques pour les trotskistes, etc. Et donc, au bout d'un moment, tous ces groupes gauchistes sont entrés en crise, mais le gauchisme culturel, lui, il a continué et en gros, il a à peu près triomphé. Et c'est lui qui a modifié les rapports sociaux en France, c'est lui qui a modernisé les rapports. Une très grande partie de ces gauchistes au sens large sont devenus profs, sont devenus éducateurs, et donc ont contribué aussi à moderniser le capitalisme d'ailleurs, mais surtout à transformer les choses plutôt dans le bon sens. C'est la révolution féministe, c'est le début de prise en charge de l'écologie, etc., etc. Donc vous avez ce décalage entre un discours politique et une réalité culturelle et sociale qui me semblait intéressant à relever.
Chouette.
Voilà.
Philippe, encore merci. Sylviane, Cécile, Jean, Jean-Marie, merci.
Ben, merci.
Merci. Okay. Merci à toi.
Mon espèce égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et ben sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui dit l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confrérie et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang entre char et usine, innocent dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus, caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la ville s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle, toute cette merde est réelle, donc on battra encore, c'est la malade Libra, qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, subutex injecté dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, c'est plus à la baraque, que les mômes rentrent tôt, ils apprennent la ruse dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voir la haine de la honte, les barrières sont là, dans nos têtes bien au chaud, les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau, non rien n'est rose ici, la grisaille demeure, dans les cœurs meurtris, qui
y a peu, si feu meurt, ne pleure, revois ma sœur, car tu portes le monde. Noble est ton cœur, prends-toi et remonte. N'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste. L'homme s'est construit son monde, apprenti créateur qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionne en massif là où les nerfs sont à vivre. Dans la marche et la rage, bastion des galériens, ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur, méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous aux bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne, car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête envoûte la foule. Les symboles s'inversent, se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste. Le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes? La mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles. Cette fin se dessine, l'humain se décime. Espoir indigo, les pléiades nous désignent. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. Dépasse Babylone, élucide le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quinto sol, comprends entre les lignes. Comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. La vie est grande. Ton cœur, désobéissance. Car la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous.